hungry, when you get 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 hungry, when you're very miserable, you're very miserable, you're very miserable, something inside you, something inside you, something inside you, something crying, you're hurting, you're crying, you're hurting, you're crying, you're all inside of you, all inside of you, all inside of you, all inside of you, all inside of you.
Partage du savoir ou privatisation des connaissances. Une thématique de la rédaction de Grenouille, en partenariat avec l'École d'art d'Aix-en-Provence. À la fin du mois de décembre, nous étions invités à assister à un cycle d'interventions et de conférences sur le thème de la propriété intellectuelle à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. À l'initiative de Jean Christoffel, philosophe et enseignant dans cette école, se réunissaient artistes, chercheurs, juristes, enseignants, tous acteurs et moteurs d'une réflexion commune sur les questions tenant à la libre circulation des connaissances et des créations. Nous allons nous efforcer de vous rendre compte de la teneur de ces réflexions passionnantes et plutôt que vous donner à entendre le son des interventions magistrales, nous avons choisi d'organiser quelques moments de rencontres et de débats entre ces intervenants au cours de trois émissions spéciales. Trois aspects, donc, autour des questions liées à la propriété intellectuelle, tout d'abord autour de la création artistique, puis à propos de la société de l'information, et enfin, autour de l'appropriation du vivant. N'oublions pas que nous étions dans une école d'art, nous avons aussi voulu donner la parole aux étudiants qui, chaque jour, vous feront part de ce qu'ils ont perçu de ces réflexions, de l'impact qu'elles ont dans leur propre pratique artistique. Tout de suite, premier entretien croisé avec Jean Christoffel, accompagné de Paul de Vautour, artiste et directeur de l'École d'art de Bourges, et de Douglas Stanley, enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence. On va tout de suite commencer avec, bien sûr, une question autour de la propriété intellectuelle, puisque c'est ce qui nous réunit. Une notion de propriété intellectuelle qui, bien sûr, suit l'évolution de nos sociétés qui sont passées d'un stade primitif, d'économie rurale, d'économie fondée sur l'artisanat, à un stade plus avancé, de société industrielle, où cette notion de propriété intellectuelle a changé. Et puis aujourd'hui, peut-être un troisième stade d'évolution, vers des sociétés beaucoup plus axées sur une économie de services, une économie autour de biens de plus en plus dématérialisés. Alors, une première question, quelle incidence sur la propriété intellectuelle a cette dématérialisation des biens et cette dématérialisation de l'économie? Peut-être pour commencer, Jean Christoffel.
La conséquence première, c'est que la propriété intellectuelle se trouve placée au cœur du fonctionnement économique, dans la mesure où cette économie devient une économie du savoir, une économie de la connaissance, mais aussi une économie des manières de vivre, une économie des marques, une économie des brevets. Et donc cela signifie que c'est autour de ces notions qui touchent aux questions de la culture et du savoir que s'effectue l'essentiel du prélèvement et de l'extraction du profit dans le mode de fonctionnement de l'économie. Et donc ce qui m'intéressait, c'était, au travers de la question de la propriété intellectuelle, à la fois de poser la question de l'évolution des formes sociales aujourd'hui, mais c'était en même temps d'essayer de montrer comment cette évolution déplaçait le champ de la culture, de romper avec la partition traditionnelle qu'il y avait entre champ de l'économique, champ du politique et champ de la culture, pour recréer un nouvel horizon ou un nouveau mode de fonctionnement qui fait de la question du savoir, de la science bien sûr, mais au-delà de la science, des différentes formes de savoir, mais aussi de l'ensemble de la culture et par conséquent la question artistique, une question qui renouvelle ses formes, renouvelle ses modalités, renouvelle ses enjeux et donc dessine un nouveau terrain à la fois de répartition des forces sociales, mais aussi un terrain d'exploration des luttes. C'est-à-dire que la culture n'est plus, comment je pourrais dire, à la marge du fonctionnement économique global. Elle est devenue l'un des lieux critiques de cette économie.
Paul de Vautour, cet après-midi, vous nous présentiez en détail un rapport, je crois élaboré par le ministère de l'Économie et des Finances, un rapport intitulé « Économie de l'immatériel ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Je ne l'ai pas lu encore entièrement, donc j'aurais du mal à vous en dire des mots précis, mais j'ai parlé de ce rapport pour alerter les étudiants qui nous écoutaient sur l'urgence de ces questions qu'on évoque et leur incidence sur le monde de l'art. On ne peut pas être indifférent aujourd'hui quand on réfléchit à la pratique artistique, quand on s'apprête à travailler comme artiste, aux conséquences qu'auront ces transformations de l'économie. Et donc c'était pour leur montrer qu'on n'était pas dans la fiction, dans la science-fiction, dans le futurisme débridé, mais dans la réalité, puisque le ministère de l'Économie a commandé ce rapport qui vient d'être publié il y a une quinzaine de jours, qui est sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, qui propose un certain nombre de prescriptions pour tenir compte de la transformation de l'économie et de l'émergence de l'économie de l'immatériel. Donc il y a un certain nombre d'analyses qui me semblent tout à fait intéressantes, pertinentes, qui montre qu'il y a une prise de conscience en France de ces transformations de l'économie. Et puis ensuite, évidemment, on entre dans une zone beaucoup plus discutable, qui est une zone politique, qui est les propositions qui sont faites pour s'adapter à cette nouvelle donne de l'économie de l'immatériel. Évidemment, les propositions qui sont faites, là, dans ce rapport, sont assez peu convaincantes, enfin, en tout cas, très discutables pour beaucoup d'entre elles. Je citais notamment dans l'une des pages des rapports la suggestion qui est faite d'introduire des publicités dans les textes de loi pour amortir leurs consultations sur Internet. Et autres propositions aussi inquiétantes qui vont dans le sens d'une marchandisation générale. Donc l'exposé portait un petit peu sur cette ambiguïté qu'il y a entre un potentiel fantastique qui s'ouvre du fait de ces nouvelles technologies et de cette nouvelle économie et en même temps un péril immense à pouvoir tout marchandiser sous prétexte que ça devient numérisable et donc ça devient un bien qui peut être vendu. Voilà, donc tout étant compatible dans le réseau, tout devient également marchandise d'un certain point de vue. Donc c'est un petit peu ça que je voulais pointer comme risque opposé au potentiel qu'on a d'échange dans les réseaux.
Ce rapport, il est, on le rappelle, disponible sur le site internet du ministère de l'Économie et des Finances. Douglas Stanley, une réaction par rapport à cette marchandisation à l'extrême de l'économie? Je vous entendais un peu ricaner sous cap.
Non, mais ce sont des choses qui sont absurdes et puis c'est d'une évidence. Je me demande... Non, je n'ai pas vraiment de réaction par rapport à ça. Je pense que ce genre de propositions, comme d'autres propositions, vont tomber. La question maintenant après, c'est de voir quels sont les réels effets, les réelles propositions qui seront retenues. Et ça, je n'ai pas encore vu le rapport, donc je ne sais pas du tout. Je vois sur vos notes que vous voulez parler aussi d'ADSI. Là, nous avons un texte qui va un peu dans le même sens, qui là, lui, il est réel. Et là, on est dans la réalité. Alors, là aussi, on ne sait pas encore ce que ça veut dire réellement, mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont inquiétantes.
On a compris à l'occasion de cette première journée de débat que la place essentielle de ce débat se situe sur le net, enfin en tout cas que le net est vraiment au cœur de cette discussion sur les nouvelles formes de la propriété intellectuelle. Il semble aussi émerger des débats que les institutions n'ont pas une perception de cet Internet très, très actuel, très fine, très pertinente. Est-ce que c'est, à votre avis, de l'incompétence? Est-ce que c'est un manque d'information? Ou est-ce que c'est de la malice?
D'abord, je voudrais dire que je ne pense pas que le réseau soit le seul objet du débat. Le processus auquel nous assistons, qui est le processus d'extension et de développement des formes de la propriété intellectuelle et leur infléchissement vers des formes de maîtrise et de contrôle des savoirs et de privatisation des savoirs, ne touche pas seulement le réseau. Il touche aussi le vivant, il touche les médicaments. On a l'exemple des OGM, par exemple. On a là des modalités d'appropriation par des instances qui sont des instances industrielles ou financières, de fragments du savoir qu'elles comptent s'approprier pour développer la rentabilisation de ces connaissances sur le marché. Donc il ne s'agit pas seulement du réseau. Par contre, il est très clair que l'un des éléments qui participe au développement de ce processus, c'est bien le développement des technologies numériques et le développement du réseau. Tout ne se réduit pas au réseau, mais le réseau joue un rôle moteur à l'intérieur de ce processus. Voilà. Alors, quant à la question de compétences ou compréhension ou incompréhension du réseau, je crois qu'on est plutôt en train d'assister à l'apparition de deux logiques. C'est-à-dire une logique du partage du savoir, une logique collaborative, une logique contributive, une logique qui consiste à générer des espaces ouverts qui sont des espaces à la fois de travail, d'élaboration, d'usage des formes et des moyens et des opérations sur le réseau, et qu'il y a en même temps une logique antagoniste qui consiste à utiliser le réseau comme un espace nouveau de commercialisation des objets, mais aussi, et c'est peut-être là que l'aspect est le plus douloureux et le plus difficile, c'est pour pouvoir commercialiser ces objets immatériels, on voit se développer des formes de contrôle des usages, des formes de surveillance, de limitation, d'espionnage des actions des individus qui sont là pour garantir la possibilité d'extraire du bénéfice de ce réseau. La question des DRM, c'est-à-dire des modalités techniques de contrôle de l'usage des biens culturels, tels que les met en place la DADVSI, sont à la fois dangereux parce qu'ils limitent l'usage des biens culturels comme jamais il n'avait été limité, comme le livre n'a jamais été limité par exemple, mais ils sont aussi dangereux parce qu'ils accompagnent l'usage des biens culturels d'un système de suivi, de contrôle et de formatage de l'usager de ces systèmes. Donc on est en train de voir apparaître une sorte de modalité policière du fonctionnement du commerce qui devient l'une des conditions du commerce lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu que l'espace de l'économie soit un espace qui trouve dans les formes, par exemple, de contrôle, les conditions de sa reproduction, on a maintenant une situation dans laquelle cet espace de contrôle devient la condition non pas de la reproduction du système économique, mais de la production tout court. Donc il y a effectivement un danger. Et s'il y a très certainement une part d'incompétence de la part dirigeants à la fois politiques et industriels quant à la réalité du fonctionnement du réseau, cette part d'incompétence tient, à mon avis, très largement dans la difficulté qu'ils ont de comprendre la logique de partage et de participation qui était propre au réseau qu'une incompétence technique ou qu'une incompétence, de modalité.
Tu veux dire par là qu'ils n'arrivent pas à imposer leur propre système, c'est-à-dire pas forcément qui...
Je veux dire par là que le réseau est le lieu d'une sorte de contradiction entre deux logiques qui sont des logiques antagonistes et dont la question est de savoir comment elles vont pouvoir, pour eux, comment elles vont pouvoir coexister. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont réussir à éliminer les formes participatives du réseau pour imposer le réseau comme un vecteur marchand, ou est-ce qu'ils vont être obligés de tenir part ou de tenir compte des formes participatives du réseau et de lui laisser un espace. Comment va se jouer cette relation-là? Et comment, dans cette relation-là, des questions qui sont fondamentales, qui sont celles de la création, qui sont celles de la liberté, qui sont celles de l'inventivité des usages et des relations dans le réseau, comment ces questions-là vont pouvoir se poser et se définir? Not only the most unique experience in music, music in the sense of voices, obviously, but they had the one radio they were able to.
Jean-Christophe Holl, ce matin, dans votre intervention, et à propos de l'évolution de la propriété intellectuelle, vous évoquiez la notion de nouvelles enclosures, faisant référence aux enclosures, c'est-à-dire un mouvement intervenu dans l'Angleterre rurale au XVe siècle. Peut-être quelques mots pour expliquer ce parallèle.
Oui, ce parallèle n'est pas de moi, il est ancien. Il accompagne, en fait, depuis 20-25 ans, les débats qui concernent cette question de l'économie de la connaissance. Le contenu de l'analogie est très simple. On assiste à la fin du XVe, début du XVIe siècle, à la naissance d'un processus qui va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et qui consiste à privatiser les terres communes qui étaient attachées au village et qui étaient susceptibles de créer un certain nombre d'usages communs dans les pratiques agricoles. On a donc un processus qui consiste à privatiser ces terres et à les enclore, c'est-à-dire à les délimiter par des boutures qui viennent fermer les terrains. L'une des conséquences paradoxales de ce processus, c'est bien le fait qu'il va devenir un frein au développement de la force productive qui devient économiquement centrale, qui est celle de la connaissance et de la création. Donc on est bien devant une sorte de contradiction interne qui est développée par ces formes nouvelles du capitalisme de la connaissance ou du capitalisme culturel ou capitalisme cognitif ou post-fordiste, comme on voudra. Mais cette contradiction aujourd'hui qui est portée et qui est en quelque sorte pointée par les questions de la propriété intellectuelle me semble intéressante à analyser parce qu'elles sont le point à partir duquel on peut en quelque sorte faire apparaître le processus et aussi les enjeux qui accompagnent ce processus.
Nous sommes ici dans une école d'art. De nombreux artistes sont intervenus, vont intervenir au cours de ces jours prochains autour de ces questions de la propriété intellectuelle. On se rend bien compte à quel point l'art et plus généralement le savoir, la connaissance, est véritablement au cœur des questions de la nouvelle économie. Et on peut même dire que l'art devient le grand enjeu de l'économie du XXIe siècle. C'est du moins ce que vous sembliez évoquer tout à l'heure. C'est donc vraiment ça, l'enjeu de la nouvelle économie, c'est la propriété des connaissances.
En disant ça, je joue un peu sur les mots. C'est-à-dire que le mot qui revient sans cesse, c'est les économistes, les analystes de l'économie de l'immatériel et maintenant les politiques, c'est le mot création, le mot innovation. Évidemment, dès qu'on regarde ce qu'ils entendent par innovation-création, ils pensent recherche industrielle, recherche appliquée, science dure. Et très peu, enfin là dans le rapport sur l'immatériel, ils évoquent le design et la formation en école d'art, mais de manière très rapide. On pourrait penser qu'il y a un enjeu fondamental dans une société qui pense la création et l'innovation comme un moteur de richesse, qu'il y a un enjeu fondamental à développer les capacités à créer, à innover, et que les écoles d'art sont le lieu précisément consacré au développement de ces compétences. Ce n'est pas réellement le cas aujourd'hui, et quand on pense essentiellement au design, et non pas à l'art à proprement parler. On pense au design au sens où il a des applications très directes dans les biens industriels.
La communication, le
marketing.
Etc. Alors, quand même, dans le design, il faut le rappeler que ces mêmes questions se posent. C'est-à-dire les questions qu'on se pose à l'intérieur d'une école d'art plastique se pose aussi dans une école de design. Il y a une longue tradition de résistance pour les vides.
Pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, je crois que l'un des enjeux pour la question artistique est de savoir comment ce processus général la déplace elle-même. C'est-à-dire comment on est passé d'un certain type de production artistique qui vit par rapport à un espace du marché qui est fondé sur la production de biens et sur la production d'objets, et où le marché artistique est complètement basé sur l'existence d'objets rares, singuliers, idéalement uniques, ou en tout cas raréfiés de manière à pouvoir être vendus, à d'autres formes d'existence et à d'autres modalités de son opération, et en particulier sur le réseau. Donc on se retrouve devant un déplacement qui n'est pas seulement un déplacement extérieur à l'art et qui viendrait toucher l'art du dehors, mais on se trouve devant un déplacement qui touche les pratiques artistiques elles-mêmes et qui les met dans une situation d'être porteuse d'un certain nombre d'exigences ou d'un certain nombre de potentialités au sein même de cette configuration nouvelle qui est en train de se créer.
Cette dimension critique des artistes à l'égard de ce modèle ultra-capitaliste, comment pourrait-elle dès lors s'exprimer ? Autrefois, c'était simple, l'art était en dehors du schéma de la politique et de l'économie, donc on pouvait avoir des artistes engagés, des compagnons de route, etc. Aujourd'hui, si l'artiste est au cœur d'un processus de production, qu'est-ce qui lui reste comme stratégie pour pouvoir critiquer le processus dans lequel il est complètement immergé, pourrait-on dire ? Qu'est-ce qui reste aux artistes aujourd'hui pour exercer concrètement des formes critiques ? Est-ce que c'est, comme le préconisaient les situationnistes il y a quelques années, des formes de subversion, de détournement, ou bien est-ce que même cela aujourd'hui est devenu obsolète ? Paul de Vautour.
On a vu ce que le détournement est devenu dans la pratique publicitaire. C'est devenu un des outils rhétoriques fondamentaux qui produit cette désublimation continuelle à l'œuvre dans le discours publicitaire. Donc ça, c'est assez compromis. Et on peut dire que toute forme d'invention formelle est d'avance compromise par le recyclage et la récupération des publicitaires, des designers. Au designer, au sens peut-être un peu restrictif, non pas quelqu'un qui va penser aux usages sociaux des objets qu'il conçoit pour les rendre. Enfin, ça pourrait être la définition idéale du designer, mais le plus souvent aujourd'hui, le designer, c'est celui qui va rendre des objets compatibles avec un marché, répondant à des attentes et véhiculant de la signification flatteuse pour les acheteurs.
Cette forme de récupération par les instances de production. Quelle solution s'offre aux artistes ? Est-ce que, par exemple, la solution de l'invisibilité, de l'anonymat, serait une solution pour éviter, justement, d'être en prise directe avec les sirènes du marketing ?
C'est une des hypothèses sur lesquelles, de mon côté, je travaille, sur l'idée qu'il faut créer des espaces protégés de ces logiques de communication, de ces logiques de marketing, de ces logiques de design, où sans quoi le devenir décoratif de toute production, même pensée comme subversive, est inéluctable. Dans les espaces d'exposition tels qu'on les observe aujourd'hui, il y a une mécanique absolument imparable de récupération de tous les gestes possibles et imaginables, présents et futurs et passés. On revisite et on relit l'histoire. Donc il faut, et c'était ça la promesse pour moi du réseau, ça le reste encore, c'est trouver un espace de travail, d'échange, en dehors de ces projecteurs médiatiques qui sont braqués sur les lieux de visibilité que sont les expositions, les galeries, les musées, etc., pour développer des stratégies à l'abri de ces phénomènes de récupération. Et la principale posture, elle n'est pas d'invisibilité au sens physique et optique, elle est d'invisibilité au sens du refus d'une logique médiatique. C'est refuser de penser qu'une chose existe à partir du moment où elle est relayée par un média. La logique omniprésente aujourd'hui, c'est que rien n'existe s'il n'est reproduit, diffusé par des médias. Or, on a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas un média, qui est le réseau, par lesquels un certain nombre de choses peuvent exister, de proche en proche, c'est la logique du peer-to-peer, sans passer par cet effet d'éclairage du média, effet de focalisation et de déformation, effet aussi de contraintes, parce que pour être sous le projecteur, il faut accepter un certain nombre de compromis. Et donc, pour moi, la seule stratégie aujourd'hui, c'est de sortir de ces logiques de communication et de visibilité. Bon, d'où l'idée d'invisibilité, mais ce n'est pas nécessairement une invisibilité optique. Hein. C'est invisible au marché, aux médias, pendant un temps.
Autre stratégie offerte aux artistes pour essayer de ne pas jouer le jeu de cet ultra-capitalisme, c'est de travailler volontiers en collaboration avec des chercheurs, voire même que les artistes deviennent eux-mêmes quelque part des chercheurs. Ça me rappelle cette phrase de Pablo Picasso qui disait « je ne cherche pas, je trouve ». Ben, peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement trouver, il faut aussi chercher et que l'artiste et le chercheur travaillent dans le même registre.
Oui, je ne sais pas si je poserais exactement la question comme ça. Enfin, je ne dirais pas que la question, c'est de créer des liens entre recherche scientifique, recherche artistique, d'une manière en quelque sorte volontariste et artificielle. Je pense que ces liens y sont. De fait, ils y sont par le fait qu'une grande partie de nos modalités de penser, de vivre, de travailler passe par des formes qui sont des formes technologiques extrêmement élaborées. Et donc, la question pour moi n'est pas de la confrontation entre deux champs séparés, mais plutôt de la façon dont des espaces se redistribuent. Effectivement, le lieu de la recherche, non pas comme innovation, mais comme potentialité de déploiement des idées, des formes, des trajectoires, me semble l'un des lieux dans lesquelles les pratiques artistiques peuvent trouver un espace d'existence, ou en tout cas, je veux dire qu'elles le constituent objectivement, un lieu de ce type. Par contre, je pense pas non plus qu'il s'agisse de constituer un sanctuaire qui serait le sanctuaire de la recherche. Il me semble que l'un des lieux de l'artiste, c'est justement de pouvoir accumuler des lieux ou de pouvoir passer d'espace en espace ou de modalité en modalité. Je crois que le devenir artistique est plus dans des termes qui sont des termes, vectoriels, de déplacement, de transformation des modes de son existence ou de son travail, plutôt que d'occuper des espaces prébalisés ou définis. Je suis moins craintif que Paul, par exemple, par rapport aux espaces identifiés, dès lors que cet espace identifié est retraversé, réalimenté par ailleurs, réinjecté dans des stratégies qui sont des stratégies complexes. En fait, la situation d'artiste, pour moi, elle est dans une mobilité, non pas au sens de la mobilité du travail, mais dans la mobilité de la pensée et de l'effectuation de ces processus.
Alors, moi, je peux témoigner très concrètement qu'aujourd'hui, je me trouve actuellement au croisement de toutes ces choses-là. Je veux dire, dans certains contextes, je suis chercheur, dans d'autres contextes, je suis artiste. Dans de nouveaux contextes qui s'annoncent en ce moment, je suis game designer, peut-être. Voilà, des publics qui m'interpellent, je vais essayer d'y répondre. Donc ça c'est une réalité et j'aime bien d'ailleurs dans un contexte donner la casquette de l'autre, c'est-à-dire pour les universitaires je suis artiste, pour les artistes je suis chercheur et j'ai souvent vécu ce genre de réaction qui parfois peuvent être très violents de ces milieux qui ne veulent pas de voix étrangère à l'intérieur. Par contre, il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter à la question par rapport à l'idée du sanctuaire, c'est que la recherche aussi intègre une certaine notion de collectivisation du savoir. C'est-à-dire que la recherche, tout revient toujours à la question du temps. Tu avais évoqué ça à l'instant, l'idée du temps, on va investir dans un chercheur parce qu'au bout d'un certain temps, éventuellement, voilà. Et donc, on accorde ce temps précieux qui a un coût, mais qui a aussi une certaine force parce qu'on peut se dissocier de ce flux, la course au produit et réfléchir. Donc, la recherche, il faut à ce moment-là, justement, être dans les notions de recherche fondamentale et non pas de recherche appliquée immédiate. Mais, donc, ce que je voulais dire à l'instant, c'est que il faut absolument que ces recherches, pour qu'elles soient fondamentales et pour qu'elles soient utiles pour tout le monde, qu'on intègre des notions de collectivisation de ces recherches.
Collectivisation, ça sera le mot pour conclure cet entretien, si vous voulez bien. Paul de Vautour, Jean-Christophe Holm, Douglas Stanley, merci beaucoup. Deuxième partie de cette émission. On est encore ensemble pour un petit quart d'heure avec cette fois les étudiants de l'école d'art d'Aix-en-Provence autour de Driss Haroussi et Toufik Medjamia qu'on remercie à l'occasion pour leur participation à cette thématique. Quelques paroles libres sur ce que ces questions sur la propriété intellectuelle trouvent comme écho dans la pratique de jeunes artistes futurs diplômés des Beaux-Arts.
Genre, tu fais une pièce, tu mets des photos sur Internet, truc classique, la question.
Bah, parlons bateau, de mon cas particulier, enfin personnel.
Ouais, ouais, non, mais il faut parler de ton cas particulier.
On a dit, donc, si tu mets des photos sur Internet, fais gaffe parce qu'il y a des gens, peut-être des Chinois, tu vois, qui vont copier la peinture et qui vont la vendre pour toi à ta place.
Ok.
Alors, bon, moi, c'est. J'en ai rien à foutre, hein. Si à la limite je vois un tableau un jour dans une galerie qui est ma pièce, je vais dire « ouais, c'est cool ». Quelque part j'ai réussi parce que c'est arrivé dans une galerie et que ça va se vendre cher.
Ouais.
Bref.
Enfin, mais le truc c'est que t'es le seul à pouvoir dire que être père en fait de l'œuvre, quoi, alors que...
Ben c'est là, ouais, quelque part le père de l'œuvre, c'est vrai parce que... Parce que
et peut-être que celui qui aura reproduit sera la mère, donc il sera peut-être plus géniteur que toi, puisqu'il présente l'œuvre. C'est un peu un, tu vois, c'est un peu un truc à la rapide, quoi, mais c'est un peu comme ça. Mais...
Ouais, ouais.
Toi, tu seras content, quoi, pour ton ego.
Mais est-ce qu'il présentera la même œuvre?
Bah non.
Même s'il l'a
copie. Non, c'est pas la même.
Non.
Mais de toute façon.
Ça sera pas la même. Et je vais te dire, dans mon cas particulier, moi, je suis basé sur un procédé. Et je donne pas de titre à mes pièces, tu vois. Et l'idée de donner un titre à une pièce, c'est aussi l'idée du génie artistique, du peintre, tu vois, conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il cherche, la composition, les machins, enfin, tu vois, en gros, quoi.
Ouais, mais
et donc, partant de là, si je mets des numéros à mes peintures et que j'utilise un procédé qui est toujours le même, quasiment.
Ouais.
J'évacue cette notion de...
Mais on est quand même dans la peinture, en tout cas, on est souvent dans l'œuvre unique, quoi, parce que t'as peut-être une méthode de travail, t'as plein de choses, mais quand tu fais une pièce, elle est unique, quoi, alors que quand tu fais de la photo, de la vidéo, des... Tu sais, quand tu utilises, en fait, un matériel qui enregistre pour toi, on va dire, tu peux dupliquer, quoi, c'est comme dans la sérigraphie, t'as quand même un support, t'as une matrice... Pardon. Alors que dans la peinture, tu fabriques pas la matrice. La matrice, c'est ce que tu vends, en fait. Mais elle ne pourra pas être reproduite. C'est une matrice unique, quoi. Alors que dans la photo, la vidéo, la sérigraphie, la gravure, tu as...
Bah, elle pourra à la limite être reproduite dans le sens de l'image.
Alors que...
Parce qu'on peut très bien prendre une peinture et rendre fidèlement l'image.
Ouais.
Comme ferait une photo de la réalité.
Ouais.
Même si on pourrait plus dire ce qui est montré là a été.
Ouais, ouais, ouais.
Par contre, on perd l'essence de la peinture première, ou sa qualité plastique, sa matière justement, de ce que tu disais, tu vois. Par exemple, le monochrome, on dirait, c'est la fin de l'art.
Oui, oui.
Donc à partir de... Pourquoi on referait un monochrome? Le monochrome, il faut qu'il soit voulu comme tel, il faut qu'il soit consciemment considéré et qu'il y ait une
donc là tu rejoins franchement là tu rejoins en fait la en tout cas ma façon de voir, quoi. C'est, tout est dans le processus. Après, l'œuvre, elle est scalée. Quoi.
Elle est scalée. Je repeins d'une couche, tu vois. Et je fais pas de retouches pour me dire elle serait mieux avec un point rouge ici ou un truc là, elle serait plus équilibrante. C'est, à la limite, c'est une évacuation, c'est un travail comme un ouvrier, il va monter un mur de briques, et ben, à la fin, il va pas se dire putain, cette brique, elle est un peu décalée, je vais casser la brique et je vais en remettre une autre. Tu vois. C'est le truc qui se fait hop, tu vois, dans ce processus, justement.
Ouais, donc après, le truc, c'est que ça fait un peu, tu vois, c'est aussi la question en fait. Un peu en élargissant notre truc, là, notre discussion, c'est aussi c'est la question de l'artiste ou artisan, ou tu vois, c'est. Parce que l'artisan, il ne se pose pas la question, tu vois, de l'œuvre unique. Il est là, il est dans une pensée de processus, et il fabrique des objets, ils sont peut-être pas tous similaires, mais il est dans une pensée de fabrication de multiples objets, quoi. Alors que nous, on prend beaucoup de temps pour fabriquer souvent une seule pièce.
Des objets, pour le cas de l'artisan, qui aurait une fonction.
Oui, c'est ça.
Oui, qui ont une fonction. Nous, on ne fabrique pas des trucs qui ont une fonction, quoi.
Voilà.
Ou peut-être une fonction, je sais pas.
Non, pas forcément. Mais là, je sais pas, on s'éloigne un peu du truc.
Ouais.
Donc, finalement, en fait, je pense que la vraie question, c'est... Parce que le problème des droits d'auteur,
quel intérêt à protéger,
de protection et tout, c'est une question de rémunération. En fait, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, c'est une question de thune à la base. C'est-à-dire comment moi, en tant qu'artiste, quand je crée une œuvre X ou Y, j'arrive à ce que cette œuvre, je puisse en vivre. Quoi, tu vois, je puisse récolter les fruits de mon travail. Enfin, tu vois, là, on parle concret. Là, tu vois, c'est. Enfin, moi perso, par rapport à ça, pour moi, enfin, je veux dire, je fais pas de séparation sur l'art et le financier, quoi. Tu vois, je veux dire, avec la notion d'un art qui serait pur parce que isolé de toutes les problématiques financières et économiques et mercantiles, exactement, et un art qui serait un art commerçant, un art commercial, un art marchand, comme ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans le milieu, dans le marché de l'art, quoi, en général. Donc la question, c'est si on part du principe que l'art, c'est la vie, tu vois, que l'art, ça englobe tout, je vois pas pourquoi on mettrait de côté cette question concrète de l'économie de l'art, cette question concrète de comment un artiste, il vit, comment il paye son loyer, comment il nourrit sa famille, ses enfants, enfin, tu vois, je veux dire, des trucs, là, on est dans la vie quotidienne.
Non,
nous, on va sortir de l'école, on va avoir un super diplôme, on a été formé pour devenir des artistes, voilà, on met des grands guillemets, mais après, on devient ce qu'on veut, quoi, c'est pas le problème, mais le problème, c'est qu'on va arriver dans une société, finalement, où on n'a pas de place réelle, tu vois, on n'a pas de statut, on reçoit un diplôme de plasticien, mais il n'y a pas de statut juridique légal de plasticien qui existe, en fait, quoi. Donc, tu deviens artiste indépendant.
Ouais, mais
il
y a des structures quand même qui sont existantes, mais qui sont un peu douteuses et un peu bizarres, on va dire. Qui sont pas vraiment bien coordonnées.
C'est
quoi.
Pas ça, c'est que c'est complètement contradictoire, en fait.
Ouais, voilà,
le système, c'est complètement débile. C'est-à-dire que, on veut de l'art, on veut de la culture, on veut tout ça, c'est de la consommation, ça fait partie d'un gros marché et tout. Mais à côté, on ne voit pas à quoi ça sert un artiste, tu vois, et on ne trouve pas de moyen de rémunération d'un artiste. Personne ne va payer un mec toute sa vie, tu vois, tous les mois, lui filer tant, tu vois, pour que le gars il soit chez lui et qu'il fasse de la peinture, ou que le gars il soit chez lui et qu'il fasse de la photo. Ça serait...
C'est pour ça que je trouvais, tu sais, pendant les interventions, ce qui était intéressant, c'est quand il parlait de l'artiste chercheur, et je trouvais ça intéressant parce qu'on pourrait être, d'une certaine manière, toute proportion gardée, assimilé à des chercheurs en art plastique.
Ouais, mais
au moins on a un statut.
Attends, imagine un système inverse. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est qu'un artiste, quoi ? Tu vois, la notion, comment c'est.
Déjà, qu'est-ce que c'est l'art, déjà ? Tu vois, avant d'être un artiste, qu'est-ce que c'est l'art ?
Non.
Bah ouais, c'est.
On s'en fout de ça. Je veux dire, c'est, tu crées, tu fais un truc. Je veux dire, c'est même pas une question de art ou. Mais comment les gens voient un artiste, en fait ? C'est surtout ça, le truc. C'est-à-dire que pour les gens, un artiste, c'est un mec qui doit crever la dalle toute sa vie, tu vois, manger du pain noir, et à la fin, une fois qu'il sera mort, ou une fois qu'il sera vieux et qu'il aura galéré et compagnie, il sera reconnu, et il fera des expos, et il sera super connu, et il vendra des toiles à 90 millions de dollars, comme il vient de se vendre le dernier Picasso à 95 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Mais, je veux dire, franchement, est-ce que toi, t'as envie, en tant que peintre de vendre une toile à 95 millions de dollars ou toi tu as envie de vendre une photo à 95 millions de dollars.
Moi je m'en tape.
Je veux dire, franchement, moi c'est pareil, je m'en tape quoi. Je veux dire, le but c'est pas d'arriver à vendre des toiles à des millions et des millions, mais parce que ça sert strictement à rien, parce que de toute façon, c'est pas là le propos. Le propos c'est de pouvoir, bah, pouvoir créer en fait, pouvoir être libre de créer et de pas avoir. Bah, tout le côté où tu perds du temps à devoir aller gagner de l'argent, tu vois, à faire des boulots de merde, à galérer.
Ouais, mais ça, c'est le sort de tous les artistes et de tout
oui,
le temps.
Ouais, mais c'est de tout le temps. Mais le truc, c'est que maintenant, ça change parce qu'il y a des moyens, justement. Si tu veux, jusqu'à présent.
Il y a une question peut-être qui est soulevée ici ou qui me ramène à ce que tu dis. Et j'ai un petit passage d'Hegel sur l'art grec. Il dit : on peut déplorer que la sublime beauté de l'art grec ou que le concept, le contenu de cette belle époque soit pour nous chose disparue. On peut l'expliquer par l'aggravation des difficultés de la vie, aggravation due elle-même à la complexité accrue de notre vie sociale et politique. Et l'on peut déplorer que notre attention soit absorbée par de mesquins intérêts et des points de vue utilitaires, ce qui a fait perdre à l'âme la sérénité et la liberté qui seules rendent possible la jouissance désintéressée de l'art. Donc ouais, on est dans ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on est dans une société complexe socialement, politiquement, et qui nous amène à,
ouais,
à
mais
agir
y a,
différemment
y a des choses qui changent.
En pensant notre art.
Il y a des choses qui changent, mais c'est pas que ça, c'est aussi le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jusqu'à présent, je veux dire, y a, finalement, il n'y a rien de réellement nouveau, dans le sens où jusqu'à présent, il y a toujours eu l'art officiel, on va dire, tu vois, le marché officiel de l'art, les musées, les instituts. Le gros soin, les grands collectionneurs, les gros paniers. Mmh. Et tu as le côté underground, on va dire, tu vois, le côté, voilà, les mecs qui sont là, qui font des trucs pas en attendant quelque chose, pas en attendant une rémunération, pas en attendant d'être exposé dans un musée et tout, qui font des choses parce que c'est comme ça, parce que tu as besoin de faire, tu vois, parce que de toute façon, c'est ta vie, tu peux pas. Je veux dire, tu fais pas pour quoi, tu fais pas pour vendre, tu fais pas pour exposer, tu fais parce que voilà, tu fais quand même si bah il y a
ce que tu dois faire. Hein, c'est quoi, voilà, c'est.
Après c'est ça le truc, c'est qu'après on peut pas expliquer, rentrer dans ce genre de discussion là, on part sur un autre sujet. Mais la vraie question c'est de se dire pourquoi une société qui se dit développée, une société qui se dit tu vois. Qui accorde de l'importance à la culture, qui accorde de l'importance à l'art, elle ne soutiendrait pas réellement la création, dans le sens où c'est pas je te demande de créer un produit pour que j'arrive à le vendre, mais je te demande de créer, de faire bah, ce que tu fais habituellement, mais en même temps, bah, moi, la société, tu vois, je te dégage de, du reste, quoi, de, bah, d'aller travailler, d'aller chercher des machins, parce que c'est du travail aussi, enfin tu vois, je veux dire, c'est pas, quand je dis aller travailler, c'est aller faire un boulot que t'as pas envie de faire pour gagner de l'argent, voilà, c'est ça, quand tu fais de l'art, quand tu crées, quand tu fais quelque chose, tu le fais pas pour gagner de l'argent, quoi, tu vois, t'es pas dans le même état d'esprit, quoi.
Ça c'est certain. Ça c'est certain.
Prolonger cette première émission de réflexion sur l'alternative entre partage du savoir et privatisation des connaissances, nous vous recommandons quelques sites internet. Jean-Christophe Holl nous recommande le site de Plot, www.plotsem.net. Plotsem, ça s'écrit P-L-O-T-S-E-M-E. Paul de Vautour nous recommande le site du Collège Invisible, www.collège-invisible.org, et Douglas Stanley nous recommande l'Abstract Machine, www.abstractmachine.net. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter le site de l'École d'Art d'Aix-en-Provence, www.école-art-aix.fr. On se retrouve demain à 18h pour une seconde émission dans cette thématique sur les questions tenant à la médiation artistique et à la société de l'information. Y participeront François Deck, Philippe Aigrin et Emmanuel Vergès. Et bien sûr, notre rendez-vous avec les étudiants. À demain !